Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous et les bienvenus sur Europe 1, c'est Clap, votre rendez-vous cinéma du samedi. Et comme disait Claude Lelouch, le cinéma est fait pour ceux dont la curiosité est le plus grand défaut. J'espère donc que vous êtes curieux et pour attiser votre curiosité, voici le menu de Clap. Dans la première partie, à l'occasion de la sortie événement de West Side Story version Steven Spielberg, nous reviendrons sur l'histoire de cette comédie musicale, l'une des plus célèbres au monde. Didier Alouche sera avec nous depuis Los Angeles pour son JT d'Hollywood. Et puis à 14h20, je recevrai un comédien que l'on voit de plus en plus au cinéma. Il est discret, il s'est imposé en douceur dans le paysage cinématographique français et aujourd'hui, il est devenu incontournable. Ces derniers mois, on a pu le voir dans Président, Délicieux, Les Trésors du Petit Nicolas, tout s'est bien passé et il sera bientôt aux côtés de Romain Duris et Virginie Efira dans Bojangles. Mais je le reçois aujourd'hui pour parler du nouveau film de Jérôme Bonnel, Chère Léa, c'est Grégory Gadebois. Nous reviendrons aussi bien sûr sur les films qui ont marqué sa vie. Enfin, en dernière partie, Franck Vallière et Victor Bonnefoy, ma main gauche et ma main droite, seront avec moi pour décrypter l'actualité des sorties salles et nous ferons ainsi le grand écart entre Les Tuches 4 et Une femme du monde. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Une musique envoûtante, des tableaux féeriques, des chorégraphies spectaculaires et surtout une histoire d'amour impossible. Oui, cette semaine dans Clap, nous parlons de la comédie musicale West Side Story à l'occasion de la sortie depuis mercredi de l'un des films les plus attendus de l'année, l'adaptation par Steven Spielberg de cette comédie musicale, puis film culte. Ah non, on l'écouterait pendant des heures. West Side Story, c'est avant tout cette histoire d'amour déchirante à New York. Deux gangs s'affrontent, les Jets, des Américains d'origine italienne, polonaise et irlandaise, et les Sharks, des New Yorkais immigrés portoricains. Maria et Tony, chacun membre du gang opposé, tombent amoureux malgré les rivalités, et cet amour indestructible causera bien des malheurs. Mais West Side Story, c'est aussi une histoire de musique, de danse, de spectacle qui défie le temps et traverse les générations depuis la première à Broadway en 1957. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay. Alors l'année de sa sortie, le spectacle tient Broadway en otage pendant 732 représentations avant de partir en tournée et de faire le tour du monde. J'ai à mes côtés Victor Bonnefoy et Sophie Grèche. Vous êtes tous les deux chaque semaine dans Pardon le cinéma, excellent podcast que je vous recommande. Et je sais que vous êtes tous les deux fans de West Side Story.
Oh bah pas qu'un peu, on essaye.
Oui vraiment.
Merci beaucoup d'être là. Dites-moi, qu'est-ce que cette comédie musicale représente pour vous déjà ?
Bah, en fait, de base, moi je suis très très fan de la comédie musicale et même de l'âge d'or. Et en fait, si on doit citer trois grandes comédies musicales qui ont révolutionné l'histoire du cinéma, on pense forcément au Magicien d'Oz en 39, à Chantons sous la pluie en 52 et à West Side Story qui vient briser l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne. Et donc, c'est pas inintéressant que Spielberg vienne se réapproprier l'une des plus grandes donc comédie musicale, mais surtout l'un des plus grands shows de Broadway, parce que ce qui est important de préciser, c'est qu'il ne veut pas adapter le film de Robert Wise, mais vraiment la comédie musicale de 57. Et ce qui est intéressant, c'est que autant ça venait déjà détourner tous les codes de l'âge d'or, en mettant une histoire plus politique à son centre, en oubliant un petit peu l'effet trop centré autour du cinéma, de la musique, et là, pour ouvrir son histoire sur le monde et sur des grandes rivalités, en reprenant l'histoire de Roméo et Juliette pour en faire quelque chose de politique. Ce qui est intéressant, c'est que le film n'a pas vieilli du tout en termes d'histoire et qu'il est même tout autant, voire plus politique aujourd'hui quand Steven Spielberg se le réapproprie.
Alors, on va revenir sur la version Steven Spielberg, mais Victor, déjà, toi, explique-nous qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui a fait pour toi le succès à la base de West Side Story ?
Alors, personnellement, moi, si j'aime autant West Side Story, c'est surtout pour la personne qui a écrit West Side Story, à savoir Stephen Sondheim, écrivain de comédie musicale qui malheureusement nous a quittés juste avant la sortie du film de Steven Spielberg. On lui doit énormément de comédie musicale. C'est voilà, si Spielberg est au cinéma ce réalisateur de génie, Stephen Sondheim était la même chose à la comédie musicale, notamment si des gens veulent d'autres références cinématographiques dans ce qu'il a créé qui avait été adapté. On peut penser à Sweeney Todd par exemple. Il y a plein de choses qui viennent de Sondheim et qui ont drainé plein de choses dans la comédie musicale, et c'est ça qui me plaît moi de base dans West Side Story, c'est son travail d'écriture, c'est sa rythmique. Le fait est que personnellement, si on commence à aborder la première adaptation de West Side Story avec la version de Robert Wise, qui pour beaucoup est culte, hein, et ça je le remets pas en cause, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai plus de mal. Je
trouve 10 Oscars.
C'est exactement ça. 10 Oscars, meilleur film, meilleur réal, meilleur second rôle pour les deux, DA, costume, photo, son, montage et musique.
Oh bah oui, mais les Oscars ne font pas tout, le saviez-vous ?
Mais par contre, le public était au rendez-vous vu que ça a été jusqu'à Sound of Music du même réalisateur, le plus gros succès comédie musicale sur le territoire américain et canadien.
Ah, je suis parfaitement d'accord. Je pense que c'est une référence importante. Il y a des idées visuelles et esthétiques dans le Robert Wise qui sont absolument brillantes et passionnantes pour leur époque. Je trouve juste qu'en termes de, si on veut parler de pure mise en scène, de pur cinéma, on est dans un style et dans un registre un peu plus statique. On essaye justement de reproduire quelque chose qui vient de Broadway. Donc on nous fait des longs plans pour laisser énormément de place aux comédiens. Mais donc du coup, on manque de rythmique, on manque de cinéma en fait par instant dans la version de Robert Wise à mon goût. C'est pour ça que j'avais hâte, très très hâte, de voir ce que Spielberg allait nous faire avec son West Side Story.
Je vous avais jamais vu avant. Vous n'êtes pas portoricain.
Et c'est grave.
Tu veux déclencher une troisième guerre mondiale ?
Si tu sors avec ce type, personne ne te le pardonnera. La vie compte plus que tout, plus encore que l'amour.
Quelle musique incroyable quand même. Alors bon, parlons maintenant de cette version Steven Spielberg, de cette relecture moderne de West Side Story. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tous les deux ?
Ah là là, quelle merveille ! Quelle merveille ! Quelle merveille ! Mais en fait, c'est tout le talent de Steven Spielberg qui arrive à enchaîner les styles et les registres sans jamais se dénaturer, sans jamais dénaturer son propos de fond. Il a envie de parler justement des changements de société, il a envie de parler de l'éclatement de la cellule familiale, il a envie de parler de tout ce genre de choses qui divisent, qui rassemblent. Et il arrive encore une fois à l'appliquer à West Side Story, qui est un film beaucoup plus classique en fait, en apparence, que son film précédent, qui était quand même cet immense chef-d'œuvre qui est Ready Player One. Et je le dis sans aucun cynisme, sans aucun second degré, je trouve vraiment que Ready Player One est un des films les plus importants de la décennie. On en reparlera dans 10 ans, vous verrez. Il n'empêche que quand il arrive avec West Side Story, il arrive déjà à apporter sa mise en scène, son talent du plan séquence, son talent de la rythmique. Il arrive à apporter quelque chose de nouveau dans la musique, il arrive à apporter quelque chose de nouveau dans la signification. Spielberg est un génie, et s'il fallait encore le répéter, on le répétera encore et toujours. Et son West Side Story est une merveille absolue.
Sophie. Ce qui me fascine dans la version de Spielberg, c'est qu'il a compris ce que les comédies musicales récentes américaines, pour moi, n'ont pas réussi à atteindre, à savoir notamment l'amour de la danse, de la chorégraphie. Et en fait, moi, il y a ce passage qui est l'arrivée des Jets, où en fait, on comprend dans sa mise en scène, et notamment grâce au talent de chorégraphie de Justin Peck, qu'il a compris que l'ancrage des jambes dans le sol avait une signification, ce qui était un truc très ancien de la comédie musicale. Et donc, même en y apportant beaucoup de modernité, notamment en termes de lumière, de mise en scène, il a réussi à garder ce qui est pour moi
l'essence du succès de West Side Story.
Exactement.
Mais c'est un fan de la première heure, c'était son rêve de gosse d'adapter cette comédie musicale. C'est sa comédie musicale préférée. Il a toujours rêvé de faire une comédie musicale. Et voilà, il a attendu plus de 30 ans de carrière pour le faire.
Et de toute manière, maintenant, Steven Spielberg a atteint un âge où il a envie de se faire plaisir et de toucher justement au domaine de l'enfance. Quand il fait Ready Player One, ça parle du fait que c'est un nerd depuis toujours. C'est quand même le type qui avait tiré des kilomètres et des kilomètres de câbles entre sa maison et celle de Robin Williams pour pouvoir jouer en réseau dans les années 90 quand personne ne le faisait. Là, il nous fait maintenant West Side Story, qui est la comédie musicale qui rêvait d'adapter, et son prochain long métrage sera littéralement son histoire, sa propre vie adaptée. Ça va être merveilleux.
On dit un mot rapidement sur la réorchestration ?
Ah oui, alors très 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 rapidement, là où Robert Wise avait un peu mélangé les musiques à sa sauce dans la version de 61, on a Spielberg qui décide de revenir à l'ordre de la comédie musicale originale de Broadway, qui redonne un sens à l'ensemble, même dans la composition. Et moi personnellement, la musique qui m'a le plus cassé la tête, c'est G. Officer Krupke, qui en termes de mise en scène explose.
Social disease. The officer's right.
Sophie, vous l'écoutez en boucle, il paraît, la bande originale, depuis que vous avez vu le film?
Complètement, mais en boucle. Ça devient maladif, là. C'est terrible. Après Annette, c'est devenu ça. Je pense qu'on a un pattern qui s'est créé.
Mais ça fait du bien. Voilà. Oh oui. N'hésitez pas, faites-vous plaisir à aller voir West Side Story en salle. Merci beaucoup, Sophie Grèche, Victor Bonnefoy. Victor, tu restes à mes côtés pour la dernière partie de l'émission.
Tout à fait. Je vais décider si je suis la main gauche ou la main droite. Je n'ai pas encore choisi.
Je te laisse choisir. Sophie, je rappelle qu'on te retrouve dans le podcast, le cinéma, aux côtés de Victor. Et tout de suite, je vous propose de quitter Broadway, direction Los Angeles, à la rencontre de Didier Allouche, qui va nous livrer son JT d'Hollywood de la semaine. C'est parti.
Salut Laurie, salut à tous. Vous ne le savez sans doute pas, mais ici à Hollywood, c'est la semaine de tous les dangers. La semaine où tout peut arriver. La semaine où aucun film n'est à l'abri. Cette semaine à Hollywood, c'est la semaine du vote. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup là. Cette semaine, c'est en effet la semaine où l'association des journalistes et des critiques professionnels d'Hollywood vote pour choisir les nommés aux Critics' Choice Awards. Ils vont décider quels seront les 5 films, actrices, acteurs, réalisateurs, musiciens, scénaristes, etc. qui pourront concourir lors de leur cérémonie de remise des prix le 9 janvier prochain. Les nominations au CCA, Critics' Choice Award pour ceux qui n'aiment pas les patronymes, sont essentielles dans la course aux Oscars. Ils prennent le rôle de défricheurs que la HFPA a dû abandonner. Dans les studios, on le sait bien et on fait tout pour séduire les votants. Je fais partie de ces votants-là. J'ai pu assister en première loge à l'accélération de cette véritable campagne électorale dans les derniers jours. Ce n'est pas une campagne facile. Il y a plus de 500 votants à séduire. Alors les studios et leurs stars doivent être malins. Il faut trouver le truc pour que le votant se rappelle du film ou de la star au moment venu. Bien sûr, nous avons droit à des projections dans des salles prestigieuses, le Guillermo del Toro à l'Academy Museum, West Side Story au Zanuck Theatre, le plus beau cinéma des studios Fox, ou Dune au Steven J. Ross Theatre des studios Warner. Le plus souvent, ces projections ont lieu en présence de l'équipe du film qui s'offre un débat avec les spectateurs après la projection. Nous sommes aussi invités à des fêtes ou à des déjeuners avec les stars. Mardi dernier, on a ainsi pu déjeuner avec Jennifer Hudson qui est restée à notre table une bonne demi-heure, histoire de bien nous remettre en tête son biopic d'Aretha Franklin, Respect. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take F-T-C-T. Et nous sommes même invités par des giga méga stars à les interviewer, un truc qui n'arrive jamais. D'habitude, c'est nous qui demandons les interviews et dans 99,9% des cas, la réponse est « mais ça va pas, non ». Là, Lady Gaga, enfin sa publiciste, m'a proposé une interview comme ça sans que je ne demande rien sur House of Gucci.
Au nom du père, du fils et de la maison Gucci.
J'ai évidemment accepté, l'interview était passionnante et j'ai bien remarqué que la Gaga, en campagne, a glissé 2 ou 3 fois un petit Didier dans ses réponses. Je ne suis pas dupe, je sais que c'est de la campagne, mais Lady Gaga qui vous file des sonores d'enfer en glissant votre prénom à la fin de la phrase, ça le fait. Je vous rassure, je ne vais pas me laisser avoir, j'avais déjà mis Lady Gaga dans les meilleures actrices de l'année bien avant cet entretien. Je ne suis pas fou de House of Gucci, mais elle, rien à dire. Et même si Jennifer Hudson est irréprochable dans Respect, il y a à mon sens de meilleures performances d'actrice en 2021. Je ne voterai donc pas pour elle. Allez d'ailleurs, faut que je vous laisse, j'ai un bulletin de vote à remplir.
Merci beaucoup Didier Allouche, à la semaine prochaine.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, l'émission qui vous raconte le cinéma en compagnie de ceux qui le font. Et cette semaine, j'ai la joie de recevoir un acteur discret et pourtant incontournable. Il est avec nous pour notre plus grand plaisir. Et puis, il est partout, surtout en ce moment au cinéma. C'est Grégory Gadebois. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous recevoir. On va parler de Cher Léa, où vous jouez aux côtés d'un autre Grégory, Grégory Montel. Alors, c'est l'histoire d'un homme incarné par Grégory Montel qui vit une folle journée. Il doit faire le deuil d'une histoire d'amour qui est sur le déclin avec Léa, incarnée par Anaïs de Moustier. Il décide de se poser au café en face de chez elle. Et puis, finalement, il a du mal à en partir. Et derrière le bar de ce café, il y a un patron. Et c'est vous.
Ouais. Et qui le regarde et qui se... qui se demande au début. Au début, c'est un client comme un autre. Et puis finalement, il est un peu bizarre, ce client. Il se met à écrire. Il passe son temps à écrire. Et puis, il y a une espèce de lien qui se fait entre eux, comme ça, sur le... Pour le patron, c'est qui est basé sur l'écriture. Et puis, je pense que le patron de bar rêverait d'écrire
c'est ça,
une
c'est
chose
un peu
aussi
son
belle
fantasme.
Que ça. Et, voilà, et du coup, il y a un glissement, il y a une espèce de chose comme ça. Et puis, c'est un moment... je sais que Jérôme voulait raconter ce moment de... un peu sur l'incertitude des garçons dans ces situations-là, qui veulent pas, qui savent plus trop, qui sont un peu lâches, un peu... Ils croient qu'ils sont courageux, mais en fait, c'est ce moment de doute où ils savent pas ce qu'ils veulent, en fait, qui est un peu énervant.
Perdu face à l'amour, mais oui.
Voilà, voilà. Mais donc, ça parle de ce moment-là qui est tout en... On voit quasiment pas le... On voit que ce moment de questionnement de cet homme.
Vous n'auriez pas un stylo et du papier ? Ça va ? Je vous dérange pas trop ?
Excusez-moi.
Mais vous avez trouvé ça bien ou...
Mais vous écriviez déjà ?
Non, mais je sais pas, ça me sort de partout.
Bien plus qu'une lettre. Pourquoi j'aimerais bien savoir la suite ? Ça donne envie. C'est la jeune femme du troisième en face. C'est encore votre femme ? Pourquoi vous décrochez pas ?
Très bien que tout ça, c'est pas qu'à cause d'elle.
C'est vrai qu'elle est un peu jeune pour vous.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle est un peu jeune
Et puis ce qui est beau, c'est que il y a un peu tout qui se mêle, c'est-à-dire qu'il est dans ce café, donc il y a aussi cette ambiance de quartier, tous ces personnages qui se croisent. Finalement, il écrit sa lettre, on ne sait pas vraiment ce qu'il écrit dans cette lettre. Est-ce qu'il lui fait une déclaration d'amour ? Est-ce que c'est une lettre de rupture ? Est-ce que c'est un règlement de compte ? Est-ce qu'il lui avoue quelque chose ? On ne sait pas. Et puis on a même l'impression, au fur et à mesure du film, que ça devient secondaire, finalement, cette lettre.
Oui, c'est toujours cette chose où que moi j'aime bien, c'est que le chemin, finalement... provoque plus de choses que le lieu d'arrivée. Quoi. Effectivement, je crois que même Jérôme ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre.
Toujours personne pas aujourd'hui.
Non, c'est à chacun de se l'imaginer. Et une des choses que j'aimais beaucoup, moi, à la lecture et puis après, c'est tout ce qu'il a créé autour de ce personnage. Tout ce qui se passe au comptoir.
Tout l'espèce ce quartier.
Ouais, la petite vie dans ce café. Quoi, le personnage de la mère et de son fils. Moi, je crois que c'est mes deux préférés. Ils ont des répliques qui sont très, très justes de ce qui se passe dans un vrai bistrot. Quoi. Et ça, c'est dur à faire. Je trouve qu'il a très bien réussi ça.
Il faut que je te raconte la dernière de ton fils.
Quoi ?
Il y a 3 jours, je suis allée sur l'historique de l'ordinateur. Mmh. Non pas que je le flique, mais j'essaie de faire un peu attention. Et je tombe sur triple sodo pour une salope avide de sperme.
Oh. Putain, il a 11 ans.
C'est bien le sujet.
Et tu lui as dit quoi ?
Pour l'instant, rien. Je suis un peu démunie, là.
C'est simple, hein. Enfin, lui dire l'amour, c'est pas ça. Non, tout simplement.
Tout simplement. Bah, t'es parfait, toi, quand t'es pas là, t'as réponse à tout.
Oh non, arrête.
Alors, c'est vrai que je vous l'avais dit parce que je vous ai reçu sur Canal+, dans mon émission, mais c'est vrai que moi qui ai grandi dans une brasserie parisienne et qui ai connu vraiment cette vie de comptoir avec les piliers de bar, avec la personne qui vient prendre son café chaque matin à la même heure où on rentre vraiment dans l'intimité des gens, je trouve que c'est très réussi. Et puis le bruit des assiettes, ouais. L'effervescence, la petite musique de fond, le menu du jour, enfin voilà, tout ça c'est vraiment très réussi.
Ouais, les endives, les... Ah ouais, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
J'ai lu aussi des interviews de vous, vous expliquez que vous avez beaucoup passé de temps dans des cafés à observer aussi la vie en fait.
Ah ouais,
tout simplement.
Le café, je trouve que c'est un endroit. J'y vais moins maintenant, peut-être parce que j'ai une machine à café, mais
et moins de temps peut-être.
Et moins de temps, et puis depuis il y a moins de cafés. Il y a moins de petits cafés. Il y en a encore, mais oui, c'est un endroit extraordinaire de rassemblement de gens et de qui ont parfois rien à voir ensemble.
Ce que vous avez dit, je vous cite, ce que j'ai immédiatement aimé au théâtre, c'est qu'il me permettait de regarder le monde depuis un autre endroit. Le temps que j'avais passé à observer les gens dans les bistrots avait enfin un sens, une utilité.
Oui, c'est vrai. Ça, tout d'un coup, j'ai toujours vu des gens qui me fascinaient, qui avaient mais des fois juste un geste, une phrase, une manière de regarder en coin. Et je savais pas pourquoi j'aimais bien ça. Je le prenais, et puis au bout d'un moment, il faut en faire quelque chose. Et c'est quand quand j'ai fait théâtre que ça a trouvé une espèce de résolution. Oui, c'est vrai. J'avais dit ça.
C'est vrai. ça m'a parlé. Puis je trouvais que c'était très, très à propos avec ce film. Alors, ouais. Vous parliez, oui, de cette mère avec son enfant. C'est vrai qu'en plus, on croise des regards dans des cafés et puis on essaye de s'imaginer quelle vie ils peuvent avoir. Et il y a des choses parfois très tragiques. Là, en l'occurrence, dans Cher Léa, c'est tragique, cette histoire d'amour passionné entre sa mère et ce fils qui a quelques problèmes.
Ah oui, qui a des soucis. Mmh. Il a des problèmes, mais ils sont...
Ils sont en couleur en même temps. Et puis ouais. C'est une famille aussi, ce qu'a fait. C'est aussi ce que recherche quelque part le personnage incarné par Grégory Montel,
oui.
Qui est un peu perdu.
Ouais, et inconsciemment, il se met à un endroit qui est chaleureux, finalement. Et puis le patron de bar, c'est toujours quelqu'un de... Il est tout à la fois, quoi. Il est le psy, il est il console, il vire, il enguirlande les gens, c'est le père, il a toutes les fonctions suivant les clients.
C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites, parce que à la fois lui, votre personnage, il l'admire, il aimerait pouvoir écrire comme lui, mais en même temps, il a aussi cette figure du père. C'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport paternel qui se crée entre ces deux personnages.
Oui. Un peu c'est un peu lui qui lui dit bah, vas-y, c'est bien ce que tu fais.
Il le pousse.
Oui, il le pousse.
Il croit en lui plus que lui ne croit en lui-même. C'est votre troisième, si je ne me trompe pas, collaboration avec Jérôme Bonnel. Vous étiez déjà dans ses deux premiers longs métrages. Vous lui dites oui, quoi qu'il arrive.
Ah oui, Jérôme, c'est la première personne qui m'a filmé quand on était à l'école de théâtre, au conservatoire. Il était très ami avec une très bonne amie à moi. Et on s'était rencontrés, et à un moment, je savais qu'il allait faire un film, donc je lui avais demandé si je pouvais passer sur le tournage, voir comment ça se passait, un film. Et je me souviens, il m'avait dit « Oh, j'aime pas tellement quand il y a des gens extérieurs qui viennent, donc je te trouverai un passage. » Et donc, moi, j'ai pensé que j'allais passer.
Juste j'allais passer traverser en arrière-champ.
Et il m'avait donné, je faisais le frère d'un personnage, c'était le Chignon d'Olga. Et après, il m'a donné, à chaque fois, j'avais une scène dans les films. Et un jour, il m'a dit « On va arrêter parce que je te donnerai un vrai truc un jour. » Et c'était génial. Là.
Et puis maintenant, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que vous aimez, vous, chez lui ?
Je l'aime bien, lui. Et souvent, c'est proche, quoi. Ça veut dire que ce qu'il écrit, la manière dont il parle de ses personnages, la manière dont il les fait parler, ce qu'il choisit de raconter de ses personnages, je trouve toujours ça très fin, c'est délicat, il y a quelque chose de... Et puis c'est très drôle.
C'est très drôle et très tendre.
Ouais.
On sent qu'il est profondément humain.
Ouais, et j'aime bien son univers, j'aime bien le... Mais comme j'aime bien être sur un plateau avec lui, c'est toujours très... On sent rien, comme on dit.
C'est vrai. Et comment il vous dirige ?
Ben, je ne saurais pas
le
dire.
Il laisse beaucoup d'espace ?
Oui. Et en même temps, il faut dire... Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que le texte est important. C'est important,
très
le
bien
texte.
Écrit.
C'est très bien écrit. Et j'aime pas quand on change un mot, et lui non plus. Donc, c'est parfait. Et ouais, ça se passe en douceur.
Et vous connaissiez Grégory Montel ?
Pas du tout. On s'est rencontrés sur... au comptoir.
Au comptoir du bar.
Quand il est rentré dans mon bar, je lui ai dit « Ah ben voilà. »
C'est une belle rencontre.
Ah ouais, très belle, oui, oui. On a le même prénom, la même année.
C'est ça, la même année de naissance.
Ouais. Et c'était super.
C'est un film sur, on disait, votre personnage, il aurait rêvé peut-être d'avoir cette jolie plume. C'est un film sur les rêves, les fantasmes. Vous rêviez de quoi, vous, petit garçon ?
J'avais vraiment envisagé d'être boxeur professionnel, mais ça j'ai
c'est
raté, j'étais nul. j'avais pas vraiment de rêve.
Vous aviez pas envie finalement de cogner sur les autres.
Non, j'étais pas bien. L'armée aussi, j'avais voulu me, j'adorais, j'avais une espèce de fascination pour la Légion étrangère. J'avais été un jour au bureau de recrutement et tout, mais j'étais trop jeune, ils m'ont dit revenez plus tard. Et je me suis trouvé embarqué dans d'autres choses, mais non, j'avais pas vraiment de rêve.
Vous voulez
réaliste.
Pas être pompier quoi.
Si, policier, j'aurais bien aimé.
Quand même.
Mais il fallait faire des papiers, des concours, tout ça. J'avais pas les capacités pour faire tout ça.
Bon, vous les aviez, mais vous aviez d'autres envies.
Ouais, peut-être.
Vous étiez plus à l'instinct.
Oui, un peu. Je me disais, là, ça va bien aller quelque part, la route.
Donc la lettre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais le film s'appelle Cher Léa et tout au long du film, Grégory Montel écrit une lettre. Vous écrivez des lettres ou vous en recevez beaucoup ?
Non. Je suis nul en écriture. Je crois que c'est le point commun que j'ai avec le personnage, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui écrivent. Mais j'ai trouvé ça beau, les correspondances.
Ça manque aujourd'hui.
Je ne sais pas si on aura des traces des emails, qu'on s'envoie des textos.
Non, on aura des screenshots.
C'est quoi des screenshots? Oui.
Les copies, les captures d'écran du portable. Ouais. Mais vous devez recevoir des lettres quand même quand vous
je
êtes au théâtre.
J'en reçois de temps en temps. Oui, oui, mais c'est rare. Mais c'est vrai qu'enfant, de temps en temps, les correspondants à l'école. Mm.
Oui,
quand on recevait une lettre et tout, il y avait quelque chose de...
C'était sympa. On avait l'excitation d'ouvrir, d'ouvrir la lettre, de ne pas tout déchirer, de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur.
Et ça commençait déjà par la manière dont l'adresse était écrite. Donc il y a quelque C'était chouette.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Nous sommes le samedi 11 décembre et nous parlons cinéma en compagnie de mon invité Grégory Gadebois qui sera à l'affiche mercredi prochain de Cher Léa aux côtés de Grégory Montel, ancien pensionnaire de la Comédie Française, homme de scène, acteur incontournable au cinéma. On ne vous arrête plus en fait, Grégory.
Peut-être qu'il faudrait.
Hein. Oh non, surtout pas. Comment est-ce que vous choisissez chaque projet?
Souvent c'est deux choses. La lecture de l'histoire, du scénario, et puis la rencontre avec le metteur en scène, ou les gens qui jouent. Des fois, ou quand c'est un acteur aussi, si on me dit, il y a des acteurs, si on me dit, ils jouent dedans, bah, j'hésite pas, je dis ok, c'est bon.
Il y en a un avec lequel vous rêveriez de jouer?
Ah, il y en a plein, ouais. Non, je veux pas dire, parce qu'après les autres vont dire, ah, pas, c'est pas moi.
Tu m'as pas cité. À quel moment la comédie, le jeu est entré dans votre vie?
Alors, professionnellement, je crois que c'est quand j'ai commencé à faire les écoles, le conservatoire et tout ça. Mmh. Et avant, je sais pas, je crois qu'on joue toujours un peu à des moments. Déjà, on commence par jouer à la récré, on commence par jouer à... je saurais pas dire. C'est un truc qu'on fait tout le temps, toujours.
Et un jour, vous êtes dit, bah, tiens, est-ce que si je prenais des cours de théâtre pour aller explorer un peu plus?
Non, c'est pour être moins timide. C'était un ami de ma mère que j'aimais bien, qui avait eu cette idée un jour. Mais j'avais 15 ans.
Vous étiez très timide?
J'étais très timide. J'étais pas très, très ouvert.
C'est vrai qu'on recommande souvent le théâtre pour ça, pour les enfants. Est-ce que vous avez un souvenir, un premier souvenir de cinéma, un premier film qui vous aurait marqué?
Oui, c'était forcément un film avec Bourvil. Je pense que c'était La Grande Vadrouille. Mais c'était pas au cinéma. Moi, j'étais au cinéma, j'avais une vingtaine d'années déjà. C'était les films passés à la télé.
Le dimanche soir.
Le dimanche soir. Le cinéma, je sais même pas où il était, mais il était loin. Fallait prendre une voiture, fallait aller dans la ville à côté, qui était une grosse ville pour moi, mais qui devait être un plus gros village. Donc c'était la télé. Donc le dimanche soir, le mardi, il y avait des films.
Vous aviez le droit d'en regarder la télé à la maison.
De temps en temps, on avait le droit. Mais c'était encore les télés où il fallait se lever pour changer de chaîne.
Donc oui, c'est vrai.
Donc, il y en avait trois chaînes. Et oui, c'était des films avec Bourvil, avec De Funès. Il y avait la 7e compagnie.
Des films, toujours beaucoup d'humour.
Toujours des films d'un peu des comédies, ouais. Les Don Camillo aussi. Et le lendemain, on en parlait dans la cour de récré.
Avec les copains.
Avec les copains.
Et ça donnait quoi, les débriefs de copains?
On refaisait deux, trois phrases, on revoit parler de répliques. Puis je les ai revus. C'était pas c'était bien de les avoir vus à ce moment-là. Je sais pas si je les reverrai maintenant.
Sauf La Grande Vadrouille.
Et les Corneaux et tous ces films-là, c'est des films...
Ça fait partie de notre patrimoine. Ce sont nos grands films.
Ouais, c'est des films...
La fierté.
Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte.
Quoi?
Que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien?
J'ai du comme vous.
Ah bon?
Ah, ben là, ça va mieux.
Le mot cinéma, j'avais lu dans une interview qui vous fait souvent penser à Sergio Leone. Ça aussi, ça fait partie de votre culture.
Ouais, j'ai pas de souvenir de quand j'ai découvert ça, mais le mot cinéma, pour moi, c'est la lumière, le temps, la musique, enfin le son. De Sergio Leone. C'est les bandes noires au-dessus,
le western.
Ouais, le temps ralenti, comme ça, la chose est tirée, puis... Ouais, je sais pas pourquoi.
Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois en Amérique, tous ces films.
La Révolution était une fois la Révolution, je crois que c'est même mon préféré. C'est un des moins connus, mais j'aime beaucoup ce film.
Et Impitoyable aussi, j'ai lu que vous aimiez beaucoup.
Impitoyable, c'est...
Clint Eastwood.
Ouais.
Donc si je vous demande le film qui vous fait le plus rire...
Il y en a plein. Il y en a plein. Les Grandes Vadrouilles, tout ça. Le Bourvil de Funès, ça me fait beaucoup rire. Et il y en a plein. Mais je crois que
Les Visiteurs.
Les Visiteurs, ouais. Les Visiteurs.
La chèvre, vous avez dit aussi.
La chèvre,
c'est magnifique.
Tous les Campana pignons.
Qu'est-ce qui vous arrive encore ?
Je ne sais pas, je m'enfonce.
Pourquoi ?
Je ne sais pas, je vous dis.
Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle ?
Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce.
Et vous vous enfoncez sans réagir ?
Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants.
Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région.
Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler.
Le dîner de cons aussi.
Ah oui, le dîner de
cons. Tous les films de Francis Weber. Beaucoup, ouais.
Donc plutôt des films anciens. Plutôt cet humour.
Ouais, c'est vrai que j'ai moins de.
Qu'on a moins aujourd'hui.
J'ai beaucoup ri à Aline.
Oui, oui, moi aussi. Ouais,
ça m'a beaucoup fait rire.
J'ai beaucoup aimé le dernier film de Valérie Le Mercier.
Ouais, mais les choses gravées qui ont à voir toujours avec l'enfance et la découverte de ça, c'est les De Funès Bourville et les. Campana Pignon, les compères, pignons. La chèvre, les il y en a un autre aussi.
Le fugitif.
Les fugitifs.
Est-ce que vous regardez des comédies romantiques aussi ?
Je sais pas ce que c'est, ça veut dire quoi ? Comédie romantique, c'est la rencontre et tout va bien et ils partent ensemble.
La comédie romantique, c'est par exemple Pretty Woman.
Oui, ça j'ai bien aimé.
Ou Love Actually.
Ouais. Ou La route de Madison.
La route de Madison, bien sûr.
Voilà, ça
encore,
j'ai bien aimé.
Encore un Eastwood.
Encore un Clint Eastwood. J'aime beaucoup les films de Clint Eastwood.
J'étais en train de vous cueillir des fleurs. Les hommes font toujours ça, non ? Je ne suis pas complètement démodé. Enfin, de cueillir des fleurs pour une femme en signe d'appréciation.
Non, pas du tout. Sauf que celles-là sont vénéneuses. Je plaisantais. Pardon. C'était juste une plaisanterie. Je n'ai jamais... Je suis désolée.
Il a une belle carrière.
Ouais.
Une belle carrière en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène aussi, en tant que producteur. Tout à l'heure, vous me parliez de Rocky. Bon, là, on sort de la comédie romantique. Quoique,
non,
Rocky et Adrienne...
C'est très joli, Rocky
même...
et Adrienne.
Exactement. Ouais. C'est vrai que c'est l'histoire d'amour fou. Mais ça fait partie des films qui vous ont...
Rocky,
qui vous ont bercé.
Ouais. Plus tard, parce que j'avais pas le droit à accès à tout.
Ah, quand
et
même.
Ça parlait beaucoup des Rocky dans la cour de récré. Moi, je les avais pas vus. Les Rocky Rambo, j'ai vu ça plus tard. Et je crois que je me suis dit, oh non... Et je les ai découverts assez pareil vers 20 ans. Quoi.
Et vous avez aimé Rocky ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Qu'est-ce que vous avez aimé ? On en parlait il y a quelques semaines dans cette émission, puisqu'il y a une version de Rocky 3 qui sort, qui a été complètement remontée par Sylvester Stallone. Bon, moi, j'ai préféré l'original, personnellement. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans Rocky ?
Le personnage, l'histoire, il y a quelque chose de je trouve très, très beau, très touchant là-dedans, ce personnage.
C'est une leçon de vie à chaque Rocky.
Ouais. Puis c'est toujours, il gagne. Quoi qu'il arrive, il gagne d'une manière ou d'une autre. À la fin, il gagne.
Est-ce qu'il y a un film que vous revoyez sans cesse ?
Il y en a beaucoup. Si je regarde, j'aime bien un film qui m'avait marqué. J'aime beaucoup, beaucoup les films des frères Cohen. C'est peut-être dans mes films préférés. Et The Big Lebowski, je le regarde de temps en temps parce qu'il y a je l'ai vu, je commençais à faire ce métier Le personnage de John Goodman dans ce film, je crois que c'est un de mes personnages préférés de tout le cinéma. Il y a quelque chose de... Et le rapport au jeu qu'il a, la manière dont il joue, ils en font des caisses et on a l'impression que c'est pas possible que ça soit autrement. C'est comme les personnages de café. On se dit, souvent, les personnages dans les cafés, si on disait on mettrait ça dans un film, les gens diraient non, c'est trop. Alors que c'est bien en dessous de ce qui s'était passé en vrai. Et ce film, ça a été un moment important. Ouais.
Un tournant.
Et j'ai découvert les frères Cohen aussi.
Ils ont un humour complètement...
Ouais.
Vous aimez ceux qui ont un univers fort aussi.
Ouais, je crois
frères
que j'aime
Cohen,
bien.
Frères Cohen, Pignon, Bourville, c'est à chaque fois Eastwood. C'est à chaque fois un univers très, très marqué. Et beaucoup d'humour aussi dans les films de votre vie.
Ouais, finalement, je crois... J'ai pas fait beaucoup de comédies, bizarrement. Mais moi, je fais ce qu'on me propose. Mais je trouve que les comédies, c'est extraordinaire. On a Mais même au théâtre, quand les gens rient, c'est formidable.
Et puis quand tout le monde rit au même moment et que...
Ouais. C'est extraordinaire de faire rire les gens.
Ouais, de procurer cette émotion, surtout en ce moment. Ouais. On en a bien besoin. Mais c'est beau aussi de faire pleurer. Est-ce que vous aimez pleurer au cinéma ?
Non. Mais après, c'est rare que je pleure. Je crois que je suis assez...
Vous n'êtes pas émotif.
Si, mais...
Vous gardez à l'intérieur.
Oui, j'arrive à tout. J'ai des tuyaux spéciaux, je les mets dans des endroits. Il
faudra me donner la recette.
je me souviens de La Ligne Verte. C'est un film avec Tom Hawks. Et à la fin, c'était limite. J'avais failli pleurer.
Vous aviez l'œil un peu humide.
Mais c'était... Ouais.
C'est la seule fois ?
Non, il y a dû en avoir d'autres. Mais je ne cherche pas ça. Moi, je préfère rire. Je préfère que ça m'amuse ou être fasciné. par dans The Big Lebowski, je suis fasciné par ce qu'ils font, les acteurs. Mmh. Ça, j'adore. Quand je peux faire revoir une scène pendant des dizaines de fois, ça, j'aime bien ça.
Est-ce que vous avez une bande originale de film qui a marqué votre vie ?
Non, mais je crois que tous les Ennio Morricone me plaisent. De temps en temps, maintenant que je me mêle de conduire des voitures, je mets...
La musique d'Ennio Morricone en boucle.
En boucle et à chaque fois, ça me plaît.
Oh ben ça fait partie des plus grands compositeurs.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un film que vous conseilleriez à un enfant ?
La Grande Vadrouille. Ouais, je crois.
Pourquoi ?
Je trouve que c'est une comédie parfaite. C'est une période horrible, en fait. C'est un film sur l'occupation,
sur la guerre.
Sur le nazi, sur le... Et on a quand même envie d'être avec ces deux clampins qui se baladent sur le bord de la route en s'échangeant les chaussures. Et je trouve que c'est des films qui font du bien. Ouais, pour moi, c'est la comédie parfaite.
Si vous deviez donner un titre de film à votre vie, ça, c'est un peu dur.
C'est un peu dur. Jusqu'ici, tout va bien.
Ah, bah vous voyez, c'était pas si dur.
Non, c'était pas si dur.
C'était un joli film, d'ailleurs.
C'est un vrai film.
C'est un vrai film.
Pour moi, c'est la blague.
Je croyais que.
Non, c'est la blague du gars qui tombe.
Ah oui, du gars qui tombe et qui. Oui.
À chaque étage.
Et oui, c'est un film avec Admirade et Mélanie Laurent. Et d'ailleurs, moi, j'ai pleuré devant Jusqu'ici, tout va bien.
Je vais le regarder.
Grégory Gadebois, merci beaucoup. Je rappelle que vous serez à l'affiche de Cher Léa le 15 décembre aux côtés de Grégory Montel, Anaïs de Moustier. Il y a aussi Nadège Bosson, Diane. On n'en a pas parlé, mais qui est très, très, très touchante dans ce film.
Ouais.
Vous savez, c'est la tradition. C'est vous qui choisissez la musique qu'on va écouter tout de suite. Moi, dans un instant, je vous retrouve en compagnie de mes critiques pour vous parler des films à voir au cinéma cette semaine. Mais vous auriez envie d'écouter quoi comme musique, Grégory ?
Comme il n'a pas pu venir, l'autre Grégory, et que je sais qu'il aime beaucoup Nougaro. Eh ben, une
parfait.
Chanson de Claude Nougaro.
Alors on va écouter cinéma.
C'est parfait.
Merci beaucoup, à bientôt, à tout de suite sur Europe 1 pour la fin de Clap.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant je m'avance vers toi, 1m80, des biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches, je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches ? Non. Je te dis comment ça va.
Le cinéma de Nougaro sur Europe 1, la chanson choisie par mon invité du jour, Grégory Gadebois.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Nous sommes de retour sur Europe 1 pour la dernière partie de Clap et comme chaque semaine, nous allons vous parler des sorties cinéma. Qu'est-ce qu'il faut voir au cinéma entre deux achats de Noël? Oui, parce qu'on est quand même dans la période des derniers achats de Noël. Je vous dis tout en compagnie de Franck Vallière et Victor Bonnefoy. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour, c'est les mains gauche et droite.
Oui, voilà, c'est ça. tu l'aimes, mais
je la garde celle-là, je l'aime bien.
Ça avance d'ailleurs vos achats de Noël à tous les deux?
Pas du tout, je suis méga à la bourre.
Ah non, moi j'ai tout fait par internet et je vais au cinéma en journée comme ça, voilà.
C'est bien, alors un pronostic sur le box-office? Qui dit quoi?
Du gros blockbuster qui tâche, que je pense.
Bon, allez, pas de changement cette semaine en tête du box-office. C'est Encanto, le Disney, qui a attiré 410 000 spectateurs supplémentaires. Donc un total d'un million, un million et quelques en deux semaines d'exploitation. À la deuxième place, par contre, une nouveauté. Et il me regarde. Ben oui, c'est SOS Fantôme en deuxième place du box-office avec 280 000 spectateurs en une semaine.
C'est marrant, je croyais que c'était eux en premier.
Eh ben oui, mais non. Encanto, parce que la force Disney, de Disney quand même.
Disney, les parents ils vont avec les enfants, ça fait double entrée.
Oui, parce que Ghostbusters pas par exemple. Ouais.
Et à la troisième place?
Ah.
Back North, non.
Les Baudins en Thaïlande, ils sont toujours là avec 254 000 entrées, donc un cumul d'1 165 000 spectateurs en 3 semaines d'exploitation. Putain. Et juste un mot, le démarrage mercredi du très attendu Tuche 4, on en parlait la semaine dernière avec Olivier Barou. Sans surprise, c'est évidemment un démarrage très puissant avec près de 200 000 entrées pour le premier jour.
Ouais.
Donc, bravo.
Ça va cartonner, en plus c'est un conte de Noël cette année. Et c'est très sympa, et puis on les aime les Tuches.
Des frites.
Voilà. Et dans ce quatrième volet, de nouveaux venus dans la famille Tuche, Michel Blanc et François Berléand. Allez, on commence notre tour d'horizon des films à découvrir actuellement au cinéma avec un coup de cœur, Une femme du monde, un film brûlant sur la prostitution avec Lorca Lamy, comme on l'a rarement vu, qui incarne une prostituée prête à tout pour assurer un avenir à son fils et lui payer ses études. C'est vraiment un rôle déchirant.
Bonjour. C'est 45 la pipe et 81 positions.
Elle est pas pour nous cette école, on va pas aller mendier, maman.
Je vais te la payer.
Faut absolument qu'il fasse cette école.
Comment tu peux trouver 9000 balles en deux mois?
Je vais te payer Perrandier.
T'as fait un prêt?
Je vais aller bosser ailleurs. J'ai vraiment besoin de ce boulot.
Je sais qu'il t'a arnaqué un client.
Regarde-toi là. C'est une esclave comme les autres, c'est tout.
Franck Vallière, vous en avez pensé quoi?
C'est un très beau portrait de femme. Il y a deux fois dans le film est utilisée la chanson Vancouver de Véronique Sanson qui dit « Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut, ils vous accueillent avec des rires et des bravos ». Et c'est exactement ce que dit un peu le film. C'est un portrait de femme qui assume pleinement d'être une prostituée mais qui ne se rend pas compte que pour son fils c'est un peu plus difficile car elle ne le cache pas. Elle manifeste même pour obtenir un statut plus intéressant que celui qui est réservé aux prostituées en France à l'heure actuelle. Et du coup, on plonge en macro au fond du nœud du problème. Problème de sa vie avec son fils. Comment va-t-elle arriver à payer cette école? Elle n'a pas assez d'argent, du coup elle va prendre des risques. On n'en dira pas plus pour cela. Et ça rappelle encore une fois que ces femmes-là existent et qu'il faudrait arrêter de mettre des petits mouchoirs partout à droite et à gauche en disant non, on ne regarde pas là, le bois de Boulogne on est plein. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a aussi Au cœur du bois de Klaus Drexel, un excellent documentaire en scope qui sort cette semaine. Et vraiment, c'est un très joli film, un très joli portrait de femme.
Un premier long métrage d'ailleurs, Victor Bonnefoy.
Je serais un peu moins dithyrambique que Franck, si ce n'est que je retiendrai qu'il est sûr et certain que Lorca Lamy est un diamant brut et que la voir juste sur l'écran me rend heureux parce qu'elle a beaucoup trop de talent et qu'elle porte ce portrait de femme avec une sincérité folle. Et c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que le film n'est jamais dans le jugement, n'est jamais dans un côté qui pourrait être un peu voyeur, un peu putassier. Le film ne tombe jamais là-dedans. C'est vraiment très doux, c'est vraiment très tendre et parfois dur parce que la réalité de ce métier est dure. Je regrette un petit peu, c'est un premier film, je retiens un petit peu que ça manque de cinéma. En fait, je le dit assez souvent, j'aimerais plus de mise en scène, j'aimerais plus de plans, j'aimerais que le fils de Lorca Lamy dans le film joue mieux. Le problème, c'est que tout ce que je retiens, c'est la sincérité du film, Lorca Lamy qui est brillante, et ça déjà, c'est beaucoup.
Et vous alors, vous retenez quoi?
J'ai adoré le film. Cette actrice, elle est fabuleuse, elle l'a déjà prouvé, mais j'ai trouvé que c'était en même temps très sobre, très émouvant, pour une prestation, une interprétation assez exceptionnelle.
Moi, j'ai bien aimé.
Et Laure Calamy est très bien dans son rôle, je trouve.
Et puis un autre joli film, et encore une fois un premier long métrage, celui de la chanteuse des Brigitte, Aurélie Saada, ça s'appelle Rose. C'est un très beau titre de film, tiens, d'ailleurs. Je dis pas ça parce que ma fille s'appelle Rose, pas du tout. Pour son passage à la réalisation, la chanteuse a choisi de dresser un portrait de femme encore. Et cette fois, c'est celui d'une renaissance, celle d'une octogénaire qui va devoir se réinventer après la mort de son mari. Dans ce sublime Rose, on retrouve l'actrice Françoise Fabian aux côtés d'Oratica ou encore Pascal Elbé.
Mais où tu vas avec ce maquillage aussi? Qu'est-ce que t'as en ce moment?
Le dernier homme qui m'a draguée, c'était mon mari.
Ton vœu le plus cher, tout de suite maintenant.
Baiser.
Oh. Ok.
Amène-moi aux Galeries Lafayette.
C'est papa qui te manque, hein? Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore.
Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite?
Que cette soirée ne finisse jamais.
J'ai envie de pleurer. Rien que de réécouter la bande-annonce. Franck Vallière.
Ah, le jeu de Françoise Fabian est absolument délirant jusqu'à cette dernière séquence dont on ne dira rien, mais qui est absolument géniale. On plonge au cœur du fonctionnement d'une famille juive séfarade. Et alors, il y a tout qui passe. C'est pas spoiler que de dire que le père va mourir dans les premières minutes.
Oui, c'est le début du film.
Et cette femme se retrouve cantonnée à la maman, qui continue de nourrir ses enfants comme une bonne mère feuge. Et à un moment ou un autre, ça va sauter comment? En fumant un pétard avec sa fille autour d'un grand repas. Et à partir de là, on va plonger dans la redécouverte de son corps, de ses sentiments, du plaisir de séduire d'une femme de 78 ans. Et ça rappelle que justement, il y a autre chose que porter un caddie comme une vieille mémé quand on a cet âge-là. Et
c'est beau.
Il y a des zygomatiques. En fait, j'avais des zygomatiques bloquées. J'étais hyper bien dans ce film. On est à fond avec elle. Il y a une grande tendresse. C'est merveilleux, ce film.
C'est un petit bonbon. On écoute ce que vous en avez pensé.
J'ai beaucoup aimé le film parce que j'aime beaucoup l'actrice principale. C'est bien parce qu'on voit l'histoire d'une dame qui a perdu son mari et qui retrouve la joie de vivre après.
C'est un beau film, le casting est parfait, l'histoire est très belle et on passe réellement un bon moment. C'est une bonne façon de découvrir aussi la culture juive, en tout cas certains moments de fête par exemple.
C'est un ode à la joie de vivre, enfin un renouveau, j'ai bien aimé.
Décidément, Aurélie Saada, donc la deuxième chanteuse du duo des Brigitte, a énormément de talent. Et puis un autre film dont on parlait la semaine dernière, c'est le film d'animation d'Harry Folman, où est Anne Frank, qui est enfin dans les salles. Victor Bonnefoy, je crois que tu as beaucoup aimé.
Oui, beaucoup. Je vais être rapide sur le film. C'est intéressant ce que fait Harry Folman de prendre justement l'histoire d'Anne Frank et de la replacer dans un contexte où on oublie tout ce que racontait Anne Frank pour juste en avoir fait une pièce de musée. Justement, de replacer toute cette histoire et de dire, bah non, il y a un message derrière et que le racisme, que les migrants, que toutes ces choses-là, c'est des choses qui existent encore et c'est des choses qu'on se cache un peu les yeux en disant non, c'est un problème qu'on évacue et qu'on laisse à des partis politiques plus que douteux. Alors que Harry Folman nous dit non, c'est des situations, c'est des gens qu'il faut aider, c'est des gens qu'il faut soutenir, c'est des gens dont on a besoin. Et je trouve que Harry Folman, en remettant un peu le livre d'Anne Frank au milieu de la pièce et en nous disant regardez les gars, regardez la situation qu'elle dépeint à l'époque, elle existe toujours, c'est important.
Il faut expliquer qu'en fait Harry Folman donne vie à ce personnage imaginaire de Kitty à qui Anne Frank écrivait dans son journal. Et
exactement.
Kitty se réveille aujourd'hui, elle part à la recherche d'Anne Frank et elle va se rendre compte et faire un parallèle effectivement entre Anne Frank déportée pendant la Seconde Guerre mondiale et la situation actuelle aujourd'hui avec beaucoup d'enfants qui souffrent encore.
Toute la question qu'elle pose dans le film, c'est il y a un musée Anne Frank, il y a un théâtre Anne Frank, il y a un parc Anne Frank, il y a une école Anne Frank, mais le message et son histoire, où est-ce qu'elle est?
Merci beaucoup, merci à tous les deux. Voilà, c'était les sorties de la semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Europe 1.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.